RMC, face aux grandes gueules.
Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord, vice-président du RN. Bonjour, monsieur le député.
Bonjour. Une fois n'est pas coutume, vous allez nous parler de vous. Comment vous avez vécu hier après-midi quand Marine Le Pen vous a appelé pour vous dire que finalement, elle sera candidate?
En réalité, avec beaucoup d'émotion. On avait eu une réunion de groupe le matin même à l'Assemblée nationale, qui était assez émouvante parce que nous étions un peu à la croisée des chemins, et surtout qui était émouvante parce que quand on fait la route avec Marine Le Pen, on le fait au nom d'idées auxquelles on croit, mais c'est vrai qu'en tous les cas, moi, mon engagement, il est aussi intimement lié à sa personnalité, à ce qu'elle est, au rapport qu'elle a avec les Français. Et imaginez qu'elle ne puisse pas faire vivre ce rapport avec les Français à l'occasion des présidentielles, me semblait à la fois terrible, terriblement injuste, et puis très dur à imaginer. Et c'est vrai que lorsqu'elle m'a appelé en fin d'après-midi pour me dire qu'elle irait à l'élection présidentielle, j'étais assez ému. J'étais content de la retrouver le soir.
Vous avez versé une larme.
Mais j'étais ému parce que
ce qu'on veut c'est gagner,
mais surtout on s'est construit dans l'adversité au Rassemblement National. On peut évidemment beaucoup nous combattre ou nous critiquer, je crois que personne ne s'empêche de le faire. Nous sommes construits dans l'adversité face à un système qui souvent nous a fait passer probablement pour ce que nous ne sommes pas, quand on nous fait passer pour des nazis, pour des incapables, pour des blaireaux, etc. J'ai tout entendu. Hein. Quand on a enterré 100 fois Marine Le Pen, parce que j'en ai fait des plateaux télé, hein, où on m'a dit « Mais Marine Le Pen, c'est fini, c'est son nom, elle est nulle, elle est morte, Zemmour. » J'ai tout entendu pendant des années. Bon, Marine Le Pen, je disais sur une autre chaîne, c'est un peu Edmond Dantès, quoi, dans le Comte de Monte Cristo. Elle se relève toujours, elle revient toujours. Je ne sais pas si tout ça perdurera, mais enfin, qu'elle souffle, qu'elle panache.
Elle se pose des questions. Déjà, elle sera une candidate qui a été condamnée, même si le pourvoi en cassation fait qu'elle est présumée innocente. Mais il y a quand même une condamnation en appel. Et puis, il y a cette histoire de cour de cassation. Elle se pourvoi en cassation. La cour de cassation avait fait savoir à l'époque qu'elle se prononcerait, si elle était saisie, avant la présidentielle. Donc, si le pourvoi est rejeté, Marine Le Pen pourrait finir sa campagne avec un bracelet. Or, ce qu'elle nous a toujours dit, qu'elle ne voulait pas de bracelet.
Alors, il y a plusieurs choses. Bon, d'abord, vous dites, elle est condamnée. Oui, elle est présumée innocente, d'abord. D'autres candidats, Édouard Philippe, il a une instruction pour détournement de fonds publics sur le dos en ce moment. Il est présumé innocent de la même façon. Donc, si vous voulez, le débat présidentiel...
Le procès, quand même.
Non, mais d'accord, mais il y a une instruction qui a été ouverte. Le débat, il doit faire sur les programmes, sur les idées, sur les propositions. Moi, je ne vais pas crier tous les matins sur les plateaux télé qu'Édouard Philippe a une instruction pour détournement de fonds publics. Il gère ça.
Ça fait déjà deux fois que vous le dites.
Non, mais parce qu'on parle, mais j'en ai jamais parlé auparavant. J'ai jamais utilisé cet argument-là. Jamais. Parce qu'on est en train de parler du rapport des politiques avec la justice. Et je pense qu'il vaut mieux combattre Édouard Philippe sur ses propositions politiques, et moi je pense sur le danger qu'il représente, la poursuite du macronisme pour la France, que sur ça. La deuxième chose, la Cour de cassation. Bah, normalement, dans des temps, mais je parle sous le contrôle de Charles Consigny, qui connaît mieux ça que moi, la Cour de cassation rend ses décisions entre 1 et 2 ans après. Il peut y avoir une procédure accélérée qui avait été décidée, pas par nous, compte tenu de l'inéligibilité possible de Marine Le Pen, ce qui représentait quand même un élément dans la vie politique important. Donc il y avait une accélération. Aujourd'hui, il n'y a plus d'inéligibilité. Marine Le Pen, elle est éligible.
Pas besoin d'accélérer.
Donc,
vous demandez
à
la justice d'être lente,
mais
comme
je vais vous dire. Accélérer ou ralentir, c'est pas nous qui décidons à la fin. Ce n'est pas le Rassemblement National.
Vous
donc
faites un peu pression quand même sur la Cour de cassation. J'écoutais son avocat ce matin, Marine Le Pen. Bah si, c'est quand même étonnant de faire ainsi pression sur la justice pour demander de prendre son temps.
Non, je pense pas qu'on fasse pression sur grand monde.
Le temps que Marine Le Pen soit à l'Élysée et protégée par son immunité présidentielle.
J'ai quand même plutôt le sentiment que la justice fait exactement ce qu'elle veut. En tous les cas, elle a démontré dans ce jugement d'appel qu'elle sortait l'aspect politique tout en tenant compte des conséquences que ça pouvait avoir dans la vie politique. Mais c'est pas un jugement politique au sens... Il n'est pas coloré politiquement.
Non, mais c'est un arrêt équilibré qui prend en compte la différence des temporalités entre le temps judiciaire et le temps politique. C'est vrai que les agendas se télescopent entre les deux. Et cet arrêt, de ce point de vue-là, il est assez équilibré parce qu'il permet quand même
c'est un arrêt
politique.
Dans lequel il est écrit qu'il prend en compte la liberté des électeurs. Donc, ça veut dire qu'il y a de la politique là-dedans.
Non.
prendre en pas compte, dans le sens je suis droite ou de gauche, dans le sens
puisque on tient compte du scrutin, c'est une décision qui a priori un arrière-plan politique, on est d'accord.
Juste le rappel que nous sommes en démocratie.
Il dit surtout que l'exécution provisoire est une atteinte au processus démocratique.
Il dit l'inverse de ce que disaient les juges en première instance, qui disaient qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public si Marine Le Pen se présentait.
Il donne le feu vert à Marine Le Pen pour se présenter devant les électeurs. Ensuite, il y a un dossier qui suit son cours, comme des milliers de Français peuvent l'utiliser, comme des milliers de Français qui sont des procédures peuvent l'utiliser. On va en cassation parce que c'est le cours des choses et qu'on conteste les sanctions qui
sont
demandées.
Mais au-delà du problème juridique, on a l'impression quand même que vous et d'autres Rennes, vous êtes soulagés. Pourquoi ? Parce que Bardella, finalement, c'était pas une si bonne idée, alors que jusqu'à présent, quand on vous recevait, vous nous disiez que Marine Le Pen ou Jordan Bardella, c'était la même chose, c'était les mêmes idées, etc. Et là, tout d'un coup, on a l'impression quand même que ça soulage beaucoup de monde, ce soit Marine Le Pen la candidate.
Mais parce que c'est notre schéma initial, avec des candidats, chacun préparé pour assumer des fonctions différentes, comme nous l'avons indiqué depuis toujours, finalement, aux Français. Marine Le Pen se prépare pour être présidente de la République, Jordan pour être Premier ministre, ce qui n'est pas une mince affaire non plus. C'est pas rien d'être Premier ministre d'un pays, surtout vu l'état du pays, je peux vous dire. Donc, ils se préparent chacun différemment pour chacun occuper une fonction différente, si les Français nous font confiance et s'ils le décident. Et ça va être notre démonstration, ça va être notre capacité à convaincre les Français que ce duo, que notre slogan pour la France, la Renaissance, porte un espoir de redressement du pays. Ça, c'est notre boulot maintenant, de convaincre les Français. Mais nous voilà dans le schéma initial que nous avons préparé.
Bruno Poncet ?
Moi, j'aime beaucoup vous entendre aujourd'hui nous dire que la justice a rendu son verdict en étant en pensant à tout, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça. C'était le gilet juge rouge, c'était il voulait vous bâillonner. En fait, quand même, Monsieur Chenu, il faut quand même qu'on aille au bout de l'histoire. Il y a quand même des gens de votre parti qui ont touché de l'argent indûment et pour des fonctions qui n'avaient rien à voir avec le Parlement européen. Donc vous avez fauté. Ces personnes-là n'ont même pas fait appel. Donc ça prouve bien qu'elles ont accepté la sanction et vous avez rendu l'argent. Donc ça veut dire quand même.
Non, c'est rien d'ailleurs.
Enfin, c'est ce qui se dit partout.
Non, mais là, vous mélangez un peu les choses.
Non, mais en fait, ils ont été condamnés. Donc, ça veut dire comment vous pouvez nous dire.
Mais vous savez, il y a des gens.
Vous avez dû prendre des leçons chez Béroub. Lui, il a fait condamner Sarnez. Comme ça, ils étaient tranquilles. C'est pas lui qui a pris.
Vous savez, moi, je vote pour le même type d'affaires. Monsieur Béroub n'a pas été poursuivi. En tout cas, n'a pas été condamné. En tout cas, son mouvement. Monsieur Mélenchon n'a même pas été poursuivi. Alors qu'on est exactement dans le même type d'affaires. Bon, nous l'avons été et nous contestons aujourd'hui les décisions, et Marine Le Pen est présumée innocente, et c'est pas mon avis, c'est l'avis qui a été exprimé d'ailleurs ce matin même par, je crois, la procureure générale près de la cour d'appel, qui a dit aujourd'hui Marine Le Pen, elle est présumée innocente. C'est pas mon avis, c'est la justice, ça. Alors, dans la première version, enfin le procès initial, la première instance, oui, il y avait une couleur politique. Moi, j'étais aux audiences quand on entendait l'expression d'une magistrate disant qu'on crée un trouble à l'ordre démocratique qui n'existe dans aucun texte. Je parle encore une fois sous le contrôle de Consigny. Oui, il y avait une coloration. Non, parce que t'es probablement le plus capé juridiquement sur le plateau, peut-être. Oui. Enfin, je connais pas les parcours de chacun, mais moi, je suis pas
quasiment juriste.
Mais simplement, oui, il y avait une couleur politique.
Mais est-ce qu'on peut s'inquiéter alors pour les juges, parce que toi, vous avez dit que vous avez comparé Marine Le Pen à Edmond Dantès. Je vous rappelle qu'Edmond Dantès derrière se venge. Est-ce que les juges doivent s'inquiéter de l'avenir, parce qu'en fait, vous êtes en train de nous dire que si c'est Edmond Dantès, ça va pas rester là.
Mais c'est pas un mystère que dans le programme, il y a une refonte d'un certain nombre de dispositifs de justice, notamment la formation des magistrats, dont on pense qu'elle devrait être largement élargie, ouverte, pour éviter cet entre-soi que véhiculent parfois des syndicats comme le syndicat de la magistrature. Je veux dire, mon sentiment, c'est que le syndicat de la magistrature fait énormément de mal à la justice et aux professionnels de justice dans notre pays. Moi, j'ai beaucoup de respect. Vous savez, moi, je l'ai déjà dit peut-être, mais moi, je suis fils d'une greffière. J'allais dire, le petit peuple des palais de justice, je l'ai vu toute ma jeunesse à travers ce que faisaient les horaires, etc., qu'assumait ma mère. Et j'ai beaucoup de respect pour cette institution. Mais je pense qu'il y a des gens dans l'institution qui l'abîment beaucoup. Et le syndicat de la magistrature abîme énormément la justice de notre pays, qui n'a pas besoin de ça, il faut bien le dire.
Et c'est 10 à 20% des juges, je crois, le syndicat de la magistrature.
C'est énorme, hein.
30%.
30%, vous voyez, 1 sur 3.
Ouais. Barbara le fait.
Il y a un problème.
Juste une chose, parce que là, vous attaquez, enfin, vous critiquiez le syndicat de la magistrature.
Eux, non.
Et je me suis dit, tiens, peut-être que le Rassemblement National, d'ici la Cour de cassation, ils vont faire profil bas. C'est-à-dire, ils vont épargner la justice, ils vont plus.
Mais le syndicat de la magistrature n'est pas la justice.
Non, d'accord, mais vous savez pas sur qui vous allez tomber non plus.
Donc, ça pose un certain nombre de problèmes que des magistrats prennent des positions politiques, médiatiques. On a vu ça. Et ensuite, doivent juger les gens contre qui ils ont pris des positions. Exactement. Ça pose des problèmes. Donc on est pour qu'effectivement,
soit un peu en cause d'état de droit.
Mais en cause d'état de droit, nous on est en train de vous dire qu'on respecte particulièrement l'état de droit. On respecte les décisions et on utilise les moyens qui existent.
Donc vous interdirez les syndicats de magistrats si vous arrivez au pouvoir?
Non, moi je ne suis pas pour interdire. D'abord par principe,
je déteste les interdictions. Les procureurs jugeront directement sans procès.
Non. Mais je pense que c'est dans le mode de recrutement et de formation des magistrats qu'il faut oxygéner tout ça.
Barbara.
Le pouvoir des juges, c'est un pouvoir.
On va pas faire un débat sur la justice.
Oui, non, mais c'est un pouvoir immense et très important, et c'est une institution qu'il faut préserver justement de toute coloration politique.
Bon, là, en ce moment même, Marine Le Pen et Jordan Bardella sont à côte pour ce premier déplacement de campagne de Marine
Justement,
Le Pen dans la Sarthe.
Alors, parce que maintenant, on va pas. Je sais que ce matin, vous êtes obligé de faire tous les plateaux pour réagir à cette. Maintenant, la campagne est lancée. Elle se lance aujourd'hui là à la flèche. Avec ce binôme, un petit peu d'ailleurs à l'américaine, président-vice-président, c'est un petit peu ça. Mais c'est original et ça montre à la fois la préparation du Rassemblement National et son engagement dans la campagne. Est-ce que on peut considérer aujourd'hui que il n'y a pour l'instant que deux forces politiques qui sont vraiment entrées en campagne, c'est la LFI et le Rassemblement National? Le reste.
Il y a Édouard Philippe et son grand meeting ce week-end.
Non, excuse-moi.
Sorti aujourd'hui.
Le reste, c'est de la tambouille, parce que Monsieur Philippe, pour l'instant, il pédale dans la semoule, il est tout seul, et au rythme où ça va aller, ça va faire 10%.
Il n'est pas tout seul, il y a beaucoup de gens qui le rallient.
Oui, il n'a même pas réussi à remplir la salle, mais enfin, bon, bref, peu importe. Bon. Aujourd'hui, Monsieur Bardella, est-ce qu'il commence déjà à préparer aussi son rôle de Premier ministre, c'est-à-dire à mettre en route aussi la campagne législative, parce que derrière, il va falloir enclencher avec les législatives. Donc, est-ce que justement le choix de ce binôme, c'est-à-dire Marine Le Pen, présidente de la République, et Jordan Bardella, chef du gouvernement, donc celui qui va tracter ensuite toute la locomotive pour gagner les législatives, parce que ça va être indispensable pour gouverner, est-ce que c'est aussi comme ça que vous envisagez la campagne?
C'est exactement ça. En fait, nous sommes en toute transparence devant les Français en leur disant comment on va travailler, qui va faire quoi. Et je crois que la démonstration à la flèche, mais c'est le but, c'est que la flèche touche sa cible en ce qui concerne l'élection présidentielle, eh bien montre que nous sommes prêts. Notre programme sera présenté dans son entièreté plus tard, parce qu'il y a encore des tas de chapitres sur lesquels nous avons des choses à dire. Et je vous rappelle que autant on connaît bien nos grands piliers sur l'immigration, le pouvoir d'achat, etc., autant il y a aussi des thématiques qui ont été émergentes ces dernières années, la santé, l'environnement, le logement, qui ont pris beaucoup plus de place dans le débat public. On a des propositions, il va falloir aussi qu'on les mette dans la lumière, qui sont différentes de ce qu'on a vécu jusqu'à présent, de ce qui a été géré tant par Édouard Philippe que par Gabriel Attal. Donc nous, on est prêts et on va éprouver ce programme devant les Français. On va leur proposer et puis on va tâcher de les convaincre.
J'ai entendu parler de forums, vous allez organiser des forums de discussion autour des questions.
Conventions.
Non, plutôt des forums, de débats citoyens.
Mais on s'interdit rien. L'idée, c'est en tous les cas de se dire que on veut rassembler pour redresser. Le pays est dans un état quand même très abîmé après 10 ans de macronisme. Ils l'ont ruiné, ils l'ont uberisé, ils l'ont ouvert à tous les vents. Enfin, le pays est dans un état épouvantable, alors qu'on a toutes les capacités, toutes les forces, toute l'histoire, tout le génie français pour aller plus loin.
Oui, mais vos adversaires
donc on va essayer de mettre
diront,
ça en ligne.
Regardez le tandem, une condamnée et un débutant, un inexpérimenté.
Mais je vais vous dire...
Voilà les attaques
de l'autre. Eh bien, je vais vous dire, s'ils jouent à ça, ils vont passer à côté de leur propre campagne. Nous, on va parler du fond. On va faire des propositions. Si nos adversaires passent leur temps à jouer à ça, eh bien, je peux vous dire et ils seront à côté de ce qu'attendent les Français, que nous allons prendre très au sérieux en leur proposant un autre chemin, d'autres propositions politiques. Alors, Monsieur Attal peut aujourd'hui parler de Trumpisation, alors qu'on utilise simplement la réalité des moyens qui sont mis à notre disposition. Fond, il passe à côté des Français.
Eh ben justement, sur le fond, on va y venir dans un instant avec Charles Consigny, Bruno Poncet, avec Barbara Lefebvre, c'est Sébastien Chenu. Qui est vice-président du Rassemblement National, qui est notre invité.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Nous
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules, avec Bruno Poncé, avec Barbara Lefebvre, avec Charles Consigny, surtout avec notre invité pour le Face au GG, c'est Sébastien Chenu, député Rassemblement National, vice-président de l'Assemblée nationale. Marine Le Pen l'a encore dit aujourd'hui, il y a quelques minutes, lors de son déplacement dans la Sarthe. Je suis éligible. Elle est avec Jordan Bardella, celui qui doit aller à Matignon si jamais Marine Le Pen gagne l'élection présidentielle. La campagne a commencé. On en parle avec Sébastien Chenu et Charles Consigny. Charles.
Alors voilà, moi ce qui m'intéresse c'est quand même d'aller sur le fond parce que ça n'est pas la même ligne selon que le candidat du RN est Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Je pense qu'avec Bardella, le RN serait allé plus à droite avec un programme d'inspiration sarkozienne, disons. Et je vois avec Marine Le Pen quelque chose qui tient plus de... d'une forme de chiraco-socialisme. Et ça m'intéresse beaucoup quand j'entends les gens du RN, oui, nous sommes le changement dont la France a besoin. Alors là, c'est même maintenant carrément la Renaissance. Bon.
Oui, la Renaissance, c'est le slogan choisi par Marine Le Pen.
Bon, étrange.
Petit clin d'œil quand même au parti macroniste dirigé par Gabriel Attal.
Mais tout ça, quel est le fond des choses? Le fond des choses, c'est que Marine Le Pen ne propose aucun changement par rapport à la situation de la France. Elle ne veut pas réduire le nombre de fonctionnaires. Elle ne veut pas vraiment baisser les dépenses publiques, puisqu'en fait, elle est très étatiste. Elle est pour l'État-providence, elle est pour la redistribution. Sans doute, ça fait d'ailleurs une part de son succès dans certaines couches de la population. Mais elle assume tout à fait tout ça. Elle se revendique ni droite ni gauche. On comprend qu'en fait, elle aussi entre centre droite, centre gauche. Donc en fait, pour moi, c'est une espèce de continuité du système tel qu'il existe en France depuis maintenant environ 40 ans. Voilà. Donc je vois pas où est le changement.
Marine Le Pen, c'est la candidate du système, quoi.
Pas du système establishment. Il faut lui reconnaître ça. C'est pas la candidate du CAC 40. Faut pas mentir aux gens. En revanche, je pense que c'est la candidate d'un système à la française qui ne marche pas, qui nous appauvrit, qui est très injuste pour la France qui travaille.
Sébastien Chenu.
Bon, j'entends toujours cette critique de Charles Consigny à laquelle je souscris pas parce que je pense que d'abord beaucoup disent exactement l'inverse, disent mais c'est une énorme rupture si Marine Le Pen arrive, c'est un changement radical, etc. Donc faudrait savoir à un moment où c'est une rupture ou c'est une continuité. Moi, je pense que Marine Le Pen c'est d'abord la candidate qui a une conscience sociale. Alors c'est toujours un peu ce qui j'ai l'impression vous gêne Charles parce que on a le sentiment que il faut être un libéral qui dit mort aux pauvres matin, midi et soir.
Vous appelez conscience sociale.
Bah oui, le fait que effectivement. Et on parle et en miroir de ça justement avec la nécessité de s'emparer du problème de la dette et de la dépense publique. Contrairement à d'autres candidats, je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon lui dit que la dette c'est pas un sujet. Et nous, la dépense publique, on a effectivement un grand plan d'économie dans l'État. D'abord déjà dans l'appareil d'État. C'est d'ailleurs sur votre antenne que Marc Toiti dit qu'il y a 150 milliards d'euros par an à aller chercher dans la tuyauterie. Dans les agences d'État, etc. 150 milliards d'économies à aller chercher. Je vais vous dire, même si on en trouve 50, même si on fait 50 milliards d'économies rien que dans ce qu'on appelle effectivement la tuyauterie, eh ben on va pouvoir en faire des politiques différentes. Et des politiques différentes, c'est quoi? C'est évidemment l'immigration, rupture totale avec les logiques qui nous habitent, puisque nous, je vous le rappelle, on va faire un référendum sur l'immigration, sur le régalien. C'est manifeste.
Avec quelle question?
Ben avec non pas une question, avec d'abord un texte, un projet de loi. Quand vous votez sur un référendum, vous votez pas sur oui ou non à une question. Vous avez une proposition, nous ce sera le projet de loi qui a déjà été présenté d'ailleurs aux Français lors de la dernière élection présidentielle sur combien de temps un étranger peut résider sur le territoire, sous quelles conditions, quelles ressources peut-il obtenir en termes d'allocation sociale, etc. Vous avez, comme pour Maastricht en fait, une proposition, un texte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce texte ou pas? Donc là, on a une rupture très forte sur les politiques du régalien. Une rupture forte sur la nécessité de maîtriser la dette, parce que moi ce que je vois c'est que la dette continue à filer et que le Premier ministre a fait voter dans son dernier budget bien difficilement il faut dire, mais encore des milliards d'euros d'impôts supplémentaires sans aucune mesure d'économie. Or nous proposons des mesures d'économie et puis après il y a des logiques différentes. Regardez sur notre pauvre pays, on a l'impression que dès qu'il y a un fait de société extrêmement touchant comme celui par exemple du meurtre de cette petite Liana, ou problématiques comme la canicule, on ouvre un tiroir, tout est écroulé. On s'aperçoit que les hôpitaux sont pas climatisés, les EHPAD sont pas climatisés, les écoles sont pas climatisées, tout est effondré. Pour la gamine, on s'aperçoit qu'il y a des kilomètres de dossiers entassés dans les greffes qui ne sont pas traités par la magistrature, tout est écroulé. Ben nous, c'est ça aussi qu'on a envie de faire, c'est redresser le pays. Mais pour ça, on a besoin, oui, de fonctionnaires de justice, des fonctionnaires dans les hôpitaux. On en a peut-être moins besoin dans un certain
travail.
On a peut-être moins. On veut mettre plus de monde au boulot, c'est-à-dire que je pense qu'il faut faire entrer plus vite les jeunes au boulot et maintenir les seniors plus longtemps aussi au boulot.
Par exemple, déjà, faisons ça. 35 heures, vous ne changez rien.
Charles Consigny, déjà, faisons ça. Faisons ça et vous allez voir que le pays va changer de direction.
Il faut une révolution. Les 35 heures, par exemple, vous ne les supprimez pas.
Aujourd'hui, ça ne fait pas partie. Ça fait pas partie. Nous, on a d'autres types de solutions. Mais vous avez des marottes. Vous avez des marottes.
Moi, j'ai pas
des
marottes. La retraite. C'est toujours pas quel est votre programme sur la retraite.
C'est toujours le même programme qui est, je le répète, sur toutes les antennes depuis toujours. Alors, c'est drôle parce que quand vous disiez qu'il y avait une nuance avec Jordan Bardella, vous avez très bien compris quelle était notre proposition de retraite. Puis maintenant, plus personne ne la comprend. C'est toujours pareil. Pourtant, ça n'a pas bougé. C'est vous, si vous avez commencé à bosser avant 20 ans et que vous avez 40 annuités, vous pouvez partir en retraite à partir de 60 ans. Et puis après, de façon progressive, 42 annuités, vous pouvez partir à 62 ans. Ça, c'est le projet
vous
du
maintenez le déficit du système de retraite.
C'est un projet de société différent qui nécessite effectivement un financement. Ça veut dire des choix financiers. Donc ça veut dire que l'argent qu'on va mettre ici, mais comme on en mettra aussi pour le redressement démographique du pays que personne n'a vu venir. Hein. Je vous rappelle que ça fait juste des années, c'est un peu comme le GIEC. Ils sont tous d'accord pour dire que
les retraites,
tout se casse la gueule,
les retraites,
et personne n'a rien fait. Donc c'est un choix de société.
Oui, mais c'est déjà un choix de société puisque les retraites françaises, ça pèse beaucoup dans les dépenses sociales. Donc vous voulez encore faire plus peser le poids des retraites dans nos dépenses sociales, c'est un choix de société
non, pas
au détriment
peser,
des jeunes, par
veut
exemple.
Pas plus peser, puisqu'on veut que ça consacre toujours, il consacrait toujours 14% du PIB. Toujours le même point du PIB.
Système,
mais nous allons faire rentrer, c'est pour ça que je vous dis, il faut faire rentrer plus de jeunes sur le marché du travail, garder plus longtemps les seniors. Alors il faut des incitations à tout
ça. Vous allez encourager un peu plus et favoriser la démocratisation de la capitalisation, justement.
Mais la capitalisation, lorsqu'elle n'est pas obligatoire, pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas un tabou.
Mais
elle ne peut pas être obligatoire.
Elle peut ne pas être obligatoire, mais elle peut être largement appuyée, favorisée par l'exécutif et par le gouvernement.
Pas de tabou pour arriver à cet objectif qui est le nôtre, c'est-à-dire de pouvoir partir à la retraite à 60 ans quand on a commencé à bosser avant 20 ans et à 62 ans quand on a ses 42 années.
Je regardais les images des chaînes info de ce premier déplacement de campagne de Marine Le Pen avec à ses côtés Jordan Bardella. Je trouve que Jordan Bardella fait la gueule.
Et surtout, alors, on ne le voit pas alors, sur les images.
Peut-être que, mais je trouve qu'il fait la gueule. Est-ce que quand même, c'est pas évident parce qu'il y a encore 24 heures, il était pour tout le monde, hein, dans la tête de tout le monde, le candidat à l'élection présidentielle et le favori, si l'on croit tous les sondages. Et là, en quelques heures, eh bien, il est redevenu le dauphin, le second, celui qui sera à côté de Marine Le Pen, mais qui sera pas au devant. C'est alors, quand même compliqué à gérer. Ça.
Ceux qui font la gueule, c'est plutôt nos adversaires. Moi, j'étais hier soir dans l'hémicycle quand on a appris la décision officielle de Marine Le Pen d'être candidate. Je peux vous dire que ce soit à gauche, chez Édouard Philippe ou chez Gabriel Attal, ils avaient compris que ça allait être une sacrée partie à jouer parce qu'ils connaissent l'endurance, la solidité de Marine Le Pen. Jordan Bardella fait pas la gueule, il se prépare à devenir Premier ministre. Ça donne pas forcément le sourire.
Il y a pire dans la vie.
Je sais pas s'il y a pire dans la vie. Parce que vu l'état du pays, si, ça donne pas envie de se marrer, hein. Ça donne pas beaucoup envie de rigoler. Et je pense que Jordan Bardella, qui est un garçon sérieux.
Je pense que quelqu'un qui manipule, qui manie un marteau piqueur toute la journée, c'est un peu pire que le Premier ministre. Surtout quand il fait 45 degrés, on est d'accord.
C'est pas les mêmes choses.
Non, mais il y en a où c'est très pénible, physiquement, très dur. Et ça mérite de pouvoir partir en retraite à 60 ans, justement, quand on manipule un marteau-piqueur sous des conditions, bien sûr. Mais de l'autre côté, quand on est Premier ministre de la France, ce n'est pas rien vu l'état du pays. Mais donc, voilà.
Qui fait rien.
Sébastien Chenu, là, il y a un élu Rassemblement National de Saint-Avold qui a démissionné parce qu'il a été filmé en train de chanter Maréchal, nous voilà.
Il y a deux ans.
Il y a aussi là des jeunes, peut-être proches du Rassemblement National, qu'on a vu en train de chanter Marine au pouvoir, les bougnoules à l'abattoir. Est-ce que finalement, votre danger pendant la campagne, c'est pas votre base?
Non, parce que je pense que...
C'est pas elle qui risque de décrédibiliser votre campagne.
Nous, on sanctionne ce genre de propos tout de suite. J'allais dire, dans d'autres partis politiques, on sanctionne pas certains propos qui sont bien plus problématiques et effectivement, on les encourage. Nous, on sanctionne tout ça tout de suite, notamment ce garçon. Mais ça dit quelque chose de la campagne présidentielle. Aller chercher les propos d'un gamin de 20 ans qu'il a tenu il y a 2 ans, il avait 18 ans, propos inqualifiables qu'il faut sanctionner. Mais aller les chercher pour en faire les gros titres de la presse, ça vous dit ce que ça va être que la campagne présidentielle.
Oui, d'accord, mais ça veut dire que peut-être certains n'ont pas un bon fond aussi au Rassemblement National et peuvent se lâcher pendant la campagne. Vous croyez et ça peut vous porter préjudice. Donc
vous croyez qu'il y a un bon fond chez tout le monde à RMC?
On n'aspire pas à diriger le pays, ce qui est quand même plus gênant.
Je ne pense pas qu'un conseil municipal de Saint-Avold aspire à diriger le pays. Voilà. Mais donc là, nous, on sanctionne ça.
Qui craignez-vous le plus dans un second tour, Jean-Luc Mélenchon ou Édouard Philippe?
C'est deux dangers différents. Je pense qu'Édouard Philippe est une catastrophe pour le pays parce que ce serait la continuité, ce serait la désespérance des Français, le désespoir absolu des Français qui diront on n'en sortira jamais, les mêmes logiques qui amèneront les mêmes résultats. Et je pense que Édouard Philippe c'est le fiasco avec l'air sérieux, quoi, Édouard Philippe. Et donc en cela, il est un danger pour le pays. Quant à Jean-Luc Mélenchon, c'est la bascule du pays. C'est la bascule du pays dans une sorte de guerre civile qui aujourd'hui ne dit pas son nom. C'est l'isolement du pays à l'international. Mais encore une fois, moi je veux pas.
On dit pareil de vous en fait. On dit que si c'est vous qui passez, c'est l'isolement du pays. C'est une guerre civile.
C'est
une guerre civile.
C'est la stabilité.
On basculerait avec Orban et compagnie que les gens veulent pas.
Bon, il n'y est plus là. Orban.
Il n'y est plus là. Orban change
de disque. Sauf qu'elle va quand même voir votre ami. Mais je vais vous dire votre candidate.
Mais je vais vous dire, en réalité, je suis même pas sûr qu'il faille aller sur tout ça. C'est-à-dire que il faut pas jouer sur les peurs des Français. Il faut simplement prendre les programmes des uns et des autres, les confronter et demander aux Français quel chemin ils veulent. Moi, je crois beaucoup à ça, à aller parler à l'intelligence des Français. Est-ce que vous voulez
ce nouveau discours de notable maintenant? Le...
Je suis pas très notable.
Ah ouais, là, c'est vraiment dormez tranquille, brave gentil.
Bah, alors si. Non.
Là, on sent une notabilisation.
Ah ouais, vous êtes en tout cas en fait, plus la fatigue ou la joie.
Que oui, c'est vrai. Ça fait le cinquième média que je fais ce matin. Je suis peut-être pas assez rentre dedans, mais moi, je crois beaucoup dans...
En fait, vous voulez quand même rassurer les électeurs, notamment du deuxième tour, s'il y a un deuxième tour pour Marine Le Pen, en disant Marine Le Pen, ce n'est plus le diable c'est Jean-Luc Mélenchon.
Elle est le diable pour ceux qui ont eu envie d'y croire. Moi, j'ai jamais pensé que Marine Le Pen était le diable en quoi que ce soit. Je dis simplement aux gens, regardez les propositions politiques. Vous regardez celle de Mélenchon, vous regardez celle d'Édouard Philippe ou des candidats du Bloc central, vous regardez celle de Marine Le Pen. Et puis, vous vous faites votre idée. Voilà, c'est tout ce que je dis. Moi, je crois en ce qu'on propose. Je crois qu'on le fait avec beaucoup de sincérité. Confrontons-nous. Venons nous chercher sur notre programme. Je pense qu'on viendra plutôt que sur des arguties juridiques. Et puis, demandons aux Français quel type d'avenir ils veulent pour leur pays. La France, elle n'est pas morte quand même.
Merci Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National, de passer par les JG. La campagne est donc lancée. La campagne électorale pour la présidentielle de 2027. Premier déplacement, la Marine Le Pen, Jordan Bardella, Édouard Philippe de son côté. C'est parti.